Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, des engagements, des questions, des écritures et des réécritures qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes et que je vous raconte en suivant l'ordre alphabétique. Avant de parler de la lettre d'aujourd'hui, voici les devinettes pour les belles têtes. Voici la réponse à notre devinette pour les belles têtes de l'émission consacrée à la lettre A. A comme Abel et Caïn, tous deux fils d'Adam et Ève. Caïn, meurtrier de son frère par colère et jalousie. Le premier meurtre de l'humanité d'après la Bible. Et la devinette pour les belles têtes était « Pouvez-vous me citer trois autres exemples de fratricide, trois récits imaginaires mettant en scène le meurtre entre frères, comme celui d'Abel et Caïn ?» Premier exemple dans la mythologie égyptienne. Osiris, le dieu de l'ordre et de la civilisation apportée aux hommes, est victime de son frère Seth, le dieu du désordre et de la violence. Un meurtre qui plonge l'univers dans le chaos. On écoute un extrait du deuxième épisode de la série « Histoire et mythologie en bande dessinée » disponible sur YouTube.
Mais Osiris avait un frère puissant et ambitieux, Seth. Son royaume était situé dans le désert entourant l'Égypte. C'est pour cela que Seth enviait son frère, qui disposait d'un royaume fertile et prospère. Osiris avait une aventure avec Nephthys, la femme de Seth. Fou de rage lorsqu'il apprit la trahison commise par son propre frère, Seth voulut se venger. Le dieu des terres arides, personnification du mal, invita Osiris à un grand festin en son honneur. Pendant le festin, Seth présenta à ses invités un beau cercueil, disant qu'il était prêt à l'offrir à quiconque passerait parfaitement dedans. On invita Osiris à l'essayer. Dès qu'il fut installé à l'intérieur, Seth ferma le cercueil et enferma le dieu dedans. Le dieu du mal ordonna que le cercueil soit jeté dans le Nil pour mettre un terme à la vie du seigneur de l'Égypte. Isis pleura la mort de son mari bien-aimé. Ses larmes coulèrent dans le Nil, donnant naissance à des inondations qui reviendraient régulièrement. La déesse et sœur d'Osiris, Nephthys, chercha le corps de son frère. Après l'avoir trouvé, Isis essaya de le dissimuler. Mais Seth le trouva à nouveau et le découpa en 14 morceaux. Le dieu dispersa cruellement les morceaux du corps d'Osiris dans toute l'Égypte. Isis, avec l'aide d'Anubis, put retrouver tous les morceaux composant son mari. Anubis réussit à réunir ces morceaux et embauma le corps d'Osiris. Grâce à ses pouvoirs divins, la déesse fit revenir à la vie son bien-aimé. Mais Osiris devrait alors régner sur le monde des morts. Après sa résurrection, Osiris eut un fils avec Isis. Son nom était Horus, qui finirait par renverser le trône de Seth, usurpateur du trône qui lui revenait de droit.
Deuxième exemple de crime fratricide. Éthéocle et Polynice. Petite révision. Éthéocle et Polynice, tous deux frères d'Antigone. La tragédie de Sophocle, au 5e siècle avant Jésus-Christ, réécrite par Jean Anouilh en 1944. Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène sont les enfants d'Œdipe, roi de Thèbes. Œdipe, qui sans le savoir ni le vouloir, a tué son père et épousé sa mère, Jocaste. Après la découverte de ces deux crimes, Œdipe quitte le pouvoir et s'éloigne à jamais. Il est alors décidé qu'Éthéocle et Polynice, les deux frères, gouverneraient alternativement, un an chacun. Au bout d'un an, devinez, Éthéocle refuse de céder sa place à son frère. Polynice trouve alors des alliés extérieurs à la ville. Une guerre va donc éclater entre les deux frères, et lors d'un combat singulier, ils s'entretuent. Leur oncle Créon doit alors exercer le pouvoir. Il accorde à Éthéocle des honneurs funèbres. Quant au corps de Polynice, coupable d'avoir porté les armes contre sa patrie, il est abandonné sans sépulture. Interdiction sous peine de mort de l'ensevelir. Son âme est condamnée à errer éternellement dans la souffrance. Mais sa sœur, Antigone, refuse cette décision inacceptable moralement pour elle. Elle tente d'ensevelir le corps de Polynice. Créon n'a alors d'autre choix que de la condamner à mort. Antigone incarne le conflit entre la loi et les valeurs morales personnelles. Jusqu'à quel point est-on prêt à mettre sa vie en jeu pour ses valeurs morales? Un débat toujours et toujours d'actualité, non? Troisième exemple de fratricide, le roi lion, et notamment l'épisode de la mort de Mufasa. En Afrique, les lions dirigent le monde animal du haut du rocher des lions. Le roi Mufasa et la reine Sarabi présentent leur nouveau-né et futur roi Simba aux animaux du royaume. Scar, le frère de Mufasa, convoite le trône. Un jour, Scar emmène Simba dans une gorge, puis ordonne à ses alliés les hyènes d'y faire débouler en trombe tout un troupeau de gnous. Mufasa sauve de justesse son fils Simba, mais il manque de tomber dans la gorge. Il est alors retenu par Scar, son frère, qui finit par le rejeter dans le vide. Après ce meurtre fratricide, Scar ordonne aux hyènes de tuer le lionceau, mais Simba, heureusement bien sûr, parvient à s'enfuir.
Scar ! Mon frère ! Aide-moi !
Longue vie au roi.
J'ajouterai un exemple personnel. À chaque jour suffit sa peine. Une nouvelle que j'ai écrite pour un rendez-vous compte de l'année dernière. Espagne 1936, guerre civile. Dans un village de Castille, deux frères jumeaux, l'un franquiste, l'autre républicain. Une nuit, lors d'un affrontement armé, l'un des deux est tué par l'autre. Mais, et si le survivant avait usurpé l'identité de son frère jumeau mort? Et pourquoi ce survivant emmène-t-il près de la rivière, un jour de fête, son fils, qui est peut-être d'ailleurs son neveu? Et si finalement, ces meurtres fratricides étaient en réalité comme des demi-suicides, comme s'il s'agissait de tuer en soi cette partie qui nous pose problème, cette partie de notre personnalité que l'on n'accepte pas, qui s'oppose à notre toute-puissance, à l'image de nous que l'on souhaite donner aux autres et à soi-même. Allez, je vous laisse réfléchir, on en reparle. rdvcidfm@gmail.com. Vous êtes toujours bien sur IDFM 98 à l'écoute de Rendez-vous compte, des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, des engagements, des questions, des écritures et des réécritures qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes et que je vous raconte en suivant l'ordre alphabétique. Cette semaine, la lettre B. B comme Barbe Bleue. Barbe Bleue, la Barbe Bleue, est un conte populaire. Plusieurs versions, la plus célèbre, celle de Charles Perrault, parue en 1697. Un homme riche, une barbe bleue, qui lui donne un aspect laid et terrible, et à cause de laquelle aucune femme ne veut l'épouser. Il faut dire qu'on se demande bien ce que sont devenues ses précédentes épouses. Un jour, pourtant, il se marie avec l'une des filles de sa voisine. Quelque temps après, Barbe Bleue part en voyage. Il confie les clés de sa demeure à sa femme. Il lui interdit seulement d'ouvrir la porte d'une certaine petite pièce. La jeune femme, très curieuse, va bien sûr l'ouvrir. Elle découvre alors toutes les ex-femmes de son mari égorgées. Sous le choc, elle laisse tomber la clé dans le sang. Barbe Bleue rentre chez lui plus tôt que prévu. Tiens donc, il demande à sa femme de lui rendre le trousseau de clés et découvre que la clé est pleine de sang. Avant de la tuer, il lui laisse un quart d'heure pour prier. Finalement, la malheureuse appelle sa sœur Anne, qui réussit à faire venir leur frère. Ces derniers tuent Barbe Bleue, et la femme sauvée, in extremis, épouse ensuite un homme bon qui la rendra heureuse. Traditionnellement raconté et re-raconté, lors de veillées auxquelles assistaient adultes et enfants, les contes n'étaient pas seulement des histoires qui fascinent et qui font peur, qui fascinent parce qu'elles font peur. Leur rôle, transmettre les règles de la vie sociale, celles de la société patriarcale. Ouais, transmettre ces règles, en particulier aux jeunes filles, aux futures épouses. La spécialiste de la littérature populaire, Elsa Mourgue, l'explique au micro de France Culture le 6 avril 2021 dans une émission intitulée « Barbe bleue, le féminicide dans la culture populaire ».
L'interprétation, je crois, qui est la plus admise, est une interprétation de l'initiation sexuelle des femmes. Il semble bien que la chambre interdite, hein, dans lequel on ne peut rentrer, c'est le corps de la femme. Le corps de la femme que seul le mari, qui en a la clé, peut ouvrir. Donc, à l'époque, les femmes, finalement, devaient leur initiation au seul mari, en fait.
Pour Elsa Mourgue, la « désobéissance » entre guillemets de la jeune épouse de Barbe Bleue témoigne d'une volonté d'émancipation. Le refus de se conformer aux interdits de son mari, une révolte, une affirmation personnelle qui aurait pu lui coûter la vie.
Dans une lecture contemporaine, hein, c'est un encouragement à prendre notre destin en main.
Charles Perrault n'a pas inventé Barbe Bleue. Selon la légende, il se serait largement inspiré de deux personnages ayant réellement existé. Le premier, Henri VIII, roi d'Angleterre au XVIe siècle. Physique très imposant, longue barbe, rousse et non pas bleue. 6 épouses, mortes de mort naturelle, divorcées de force et 2 décapitées. Un vrai taliban avant l'heure, c'est Henri VIII. Rendez-vous compte. À propos de divorce, comment était-ce possible pour un roi catholique? Le divorce était en effet interdit par l'Église à cette époque, sauf circonstances très particulières. Alors, comme le pape refusait son premier divorce, eh bien, Henri a tout simplement fondé l'Église anglicane. Son Église. Une Église dont il se nomme évidemment le chef suprême. Un chef suprême qui accorde au roi, c'est-à-dire à lui-même, ce divorce que lui avait refusé le pape de Rome. Personnage criminel, ignoble, démesuré, un personnage idéal de conte. Mais Perrault ne s'en est pas inspiré. L'autre individu, qui, selon la légende, aurait pu inspirer Charles Perrault, est Gilles de Rais, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, maréchal de France à 24 ans. Plus riche et plus puissant que le roi de France. Jalousé et craint de tous. Mais Gilles de Rais est à la fois un héros, un guerrier, mais aussi le plus grand des assassins peut-être. Accusé d'avoir séquestré, violé et dépecé lors de pratiques magiques dans son château de Tiffauges plus de 140 enfants. À l'issue de son procès à Nantes, en 1440, il est pendu et brûlé. Bon, mais rien n'indique que Perrault se soit inspiré de l'ignoble Gilles de Rais, dont les actes étaient tellement effroyables qu'ils se sont installés dans l'imaginaire populaire et on a pu l'assimiler à Barbe Bleue. En réalité, les origines de Barbe Bleue sont beaucoup plus anciennes et datent de bien longtemps avant Charles Perrault. Une double référence, une chanson médiévale intitulée « La mot mariée » ou « La mal mariée » qui retrace l'histoire d'une femme battue et assassinée, retrouvée noyée au bord d'une rivière. On écoute cette chanson interprétée par Serge Reggiani par les musiques d'Anne Sylvestre.
« Mot mariée, oh mot mariée, quand ils t'ont trouvé ?» Si blanche et dorée, blonde, 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 mon marié, oh mon marié, quand ils t'ont trouvé noyé dans le courant entre tes draps de mousse, dans le courant les yeux fermés si douce comme un jardin de fleurs, comme un jardin saccagé par l'orage. Comme un jardin, comme une fleur sauvage, tu fuyais ton malheur entre deux eaux, entre deux eaux.
Autre référence pour l'histoire de Barbe Bleue, un ancien conte oral qui circulait au Moyen-Âge. L'histoire d'un cheval blanc qui tue ses femmes. La dernière découvre les corps démembrés de ses sœurs dans une pièce qui lui est interdite. Voyez comment on se rapproche de Barbe Bleue. Mais connaissez-vous Konomor? Konomor le maudit. Une autre variante de Barbe Bleue. Konomor, le Barbe Bleue breton. Il tue lui aussi ses épouses successives dès qu'elles ont un enfant. Sa dernière femme, très fine, accouche d'un garçon nommé Tremor. De peur d'être tué par son propre fils, Konomor décapite l'enfant. Heureusement, Saint Gildas remet la tête en place de l'enfant, qui va voir alors son père pour l'éprouver. À cette vue, celui-ci est frappé d'épouvante et meurt de la vengeance divine. C'est-à-dire que Saint Gildas provoque l'écroulement sur Konomor des murailles de son château par le jet d'une poignée de terre. Au fil des siècles, Barbe Bleue est devenu un mythe littéraire. Un mythe littéraire? Oui, un personnage qui, après une première apparition dans un récit que l'on peut qualifier d'originel, réapparaît dans de nombreuses créations artistiques ultérieures, de toute nature. Réécriture, ballet, opéra, théâtre, chanson. À chaque fois, l'histoire prend un sens différent, voire totalement opposé au récit premier. Exemple, les sept femmes de la Barbe Bleue, du romancier Anatole France, publié en 1909.
Anatole France, Les sept femmes de la Barbe Bleue, d'après des documents authentiques. On a émis sur le personnage fameux, vulgairement nommé la Barbe Bleue, les opinions les plus diverses, les plus étranges et les plus fausses. Charles Perrault, qui vers 1660 eut le mérite de composer la première biographie de ce seigneur, justement remarquable pour avoir épousé sept femmes, en fit un scélérat accompli et le plus parfait modèle de cruauté qu'il y eut au monde.
Selon Anatole France, l'accusation contre le gentilhomme Bernard de Montragut, surnommé Barbe Bleue, fut un coup monté de toutes pièces par sa septième femme. Elle aurait rendu son mari coupable des meurtres pour le faire tuer en toute bonne conscience et jouir ainsi de sa richesse. Dans le fameux cabinet interdit, devinez ce qu'elle a découvert. Eh bien, elle aurait découvert la preuve que les six précédentes femmes de Barbe Bleue étaient non seulement encore libres et vivantes, mais qu'en réalité, elles l'avaient toutes trompée avec de nombreux amis, y compris un ours. À l'aide de « documents », entre guillemets, qu'il affirme authentique, Anatole France fait le procès du récit de Charles Perrault. La Barbe Bleue était un orphelin, devenu un excellent homme, un peu timide, surtout avec les femmes. Barbe Bleue n'a donc tué aucune de ses épouses. Il a été sauvagement assassiné avec préméditation par les frères de sa dernière femme. Bref, le brave et bon seigneur Barbe Bleue a été une pitoyable victime de la concupiscence et de la perfidie féminine. Rendez-vous compte. Comme Don Juan d'ailleurs. Don Juan, un autre mythe littéraire aux multiples et contradictoires reprises. À l'opposé de la réécriture carrément complaisante d'Anatole France, vous voulez une relecture féministe du conte Barbe Bleue? Eh bien, Les femmes de Barbe Bleue, une pièce de théâtre mise en scène par Lisa Guez.
En face de toi, tu as qui?
Barbe Bleue.
Barbe Bleue, qui est?
Mon mari.
Oui, donc tu es?
Sa femme.
Oui, donc tu es son?
Une épouse.
Oui, mais tu es son égale, surtout. Oui, tu es son égale, alors tu le regardes droit dans les yeux, hein? Tu t'affirmes, tu l'affrontes.
Face à un prédateur comme Barbe Bleue, face au mécanisme de l'emprise, comment aurions-nous réagi? Quel secret se cache derrière cette porte interdite? C'est à ces questions que les fantômes des femmes de Barbe Bleue vont se confronter. Mais comment ont-elles pu se laisser séduire, se laisser piéger, ne pas s'enfuir? À la manière d'un groupe de parole, et avec une bonne dose d'humour, chacune raconte sa rencontre avec le personnage de Charles Perrault. Elle rejoue les étapes de leur relation avec cet homme, jusqu'au moment de bascule qui a conduit à leur mort. Les cinq comédiennes en scène nourrissent de leur vécu leurs réflexions sur le désir féminin et leur auto-conditionnement pour mieux se défaire de leur propre barbe bleue en elles. Rendez-vous compte. Je vous le disais, Barbe Bleue, en tant que mythe littéraire, a donné naissance à d'innombrables versions, reprises, réécritures, transpositions, même en chanson. Voilà une version SM, assez inattendue. Maxime Le Forestier, la septième femme de Barbe Bleue, l'un des titres de son album publié en 1986 est intitulé Aftershave. Coïncidence ce titre? Clin d'œil à cette chanson, la septième femme de Barbe Bleue? Oui et non. Figurez-vous que sur la pochette du disque, Le Forestier apparaît pour la première fois rasé. C'est donc bien, au sens propre, un album aftershave, après rasage. Marrant tout de même pour un album où il est question de Barbe Bleue. Rendez-vous compte. L'histoire racontée dans cette version, disons un peu hard, suite à ses crimes, Barbe Bleue a été emprisonnée à la prison de Fresnes. On l'a vu, paraît-il, participer à une certaine course de karting qui a récemment défrayé la chronique. Non, là, c'est moi qui en rajoute. Pendant ce temps, pendant que son pauvre mari est détenu à Fresnes, au foyer conjugal, sa jeune épouse se souvient avec nostalgie de leur relation plutôt musclée.
Ils ont mis mon mec à Fresnes, la tapisserie, la laine, ça me fait plus rire. Les journées passaient plus vite quand j'avais peur de le voir venir avec son cuir, avec ses clous, ses fouets, ses chaînes et puis ses prénoms de femmes tatoués partout. Il disait la prochaine, c'est toi.
Autre relecture féministe, en 2012, Amélie Nothomb revisite le conte originel de Perrault. Elle le transpose dans le monde moderne. Saturnine, jeune belge de 25 ans, arrive à Paris. Elle répond à une annonce pour une colocation dans un sublime appartement dans le cœur du 7e arrondissement.
Ici, c'est une histoire de luxe. Elle est capturée. Elle est captive de ce lieu parce qu'elle en a marre d'habiter dans des bouges et de dormir sur des vieux canapés qui sentent la cigarette. Elle arrive dans cet endroit somptueux et d'entrée de jeu, elle sait qu'elle succombe au luxe. Et puis, il y a aussi que les personnages ont infiniment progressé. Une des choses qui m'irrite dans Barbe Bleue, c'est l'inconsistance du personnage féminin, des personnages féminins. Je voulais une femme consistante, donc une Belge, c'est le sommet de la femme consistante.
Les personnages prennent de l'envergure, de fortes personnalités. Le maître des lieux est en effet un grand d'Espagne imbu de ses privilèges d'aristocrate, dont Elmerio, Nibal y Milcar. Saturnine, elle, a le caractère forgé par la misère à laquelle elle veut à tout prix échapper. Elle apprend que les 8 colocataires qui l'ont précédée sont toutes tombées amoureuses d'Elmerio et ont disparu. Mais peu lui importe. Et elle comprendra plus tard que chacune d'elles incarnait une nuance de couleur. Elmerio lui interdit, bien sûr, c'est un invariant du conte, il lui interdit, bien sûr, l'accès à l'une des pièces de l'appartement, la chambre noire, la bien nommée.
Il y a un mécanisme dans la chambre noire qu'il faut bloquer avant d'y entrer. Si on ne le bloque pas, la porte se referme. Et un compresseur se met en marche, qui diminue la température ambiante jusqu'à moins 5 degrés.
Elles sont mortes de froid. Vous êtes d'une cruauté abominable.
Le meurtre n'est pas un acte gentil. Il fallait qu'elles soient intactes pour la photo.
Vous les avez photographiées mortes ?
Photographier une vivante, c'est trop difficile, cela bouge sans cesse.
C'est un extrait de la série Amélie Nothomb revisite les contes, diffusé sur France Culture le 17 mars 2018. Saturnine, elle, ne cédera pas à la curiosité ni à la peur. Elle ne tombera pas amoureuse d'Elmerio comme les autres femmes. Elle ne rentrera pas dans la chambre noire, ne sera pas photographiée morte de froid par ce passionné de la gamme chromatique. Saturnine, la rebelle, la femme forte, ne serait autre qu'Amélie Nothomb à son arrivée à Paris.
Je voulais une femme consistante, donc une Belge, c'est le sommet de la femme consistante.
D'une certaine façon, Amélie Nothomb défend l'image de Barbe Bleue qu'elle affectionne. Après tout, Barbe Bleue n'est qu'un homme qui a un secret et revendique son droit au respect de son intimité. Et les femmes qui n'ont pas respecté l'interdit de la chambre noire, eh bien, tant pis pour elles. Donc une relecture féministe, mais quand même assez nuancée, voyez-vous. Dites-moi, ce Barbe Bleue mélancolique, incapable de garder les femmes qu'il aime, cela ne vous rappelle pas le Château de Barbe Bleue, le seul opéra de Béla Bartok, composé en 1911 ? Une curiosité irrésistible pousse la jeune Judith à vouloir ouvrir les 7 portes fermées qu'elle découvre dans une grande salle du château de son mystérieux époux, Barbe Bleue. Alors, pour dissiper l'ombre accablante en répondant à la joie et la lumière, elle les ouvrira toutes, malgré les supplications de Barbe Bleue. La dernière porte laisse apparaître les épouses précédentes, vivantes, se présentant majestueusement couronnées et parées de bijoux. Barbe Bleue remet alors à Judith un lourd manteau, une couronne et des bijoux. La jeune femme disparaît à son tour par la 7e porte qui se referme sur elle, laissant de nouveau Barbe Bleue à sa douloureuse solitude. Barbe Bleue, victime des femmes, de leur détermination à vivre leur destin. Dommage pour lui, mais finalement, assez satisfaisant, non ? Figurez-vous que cet opéra de Bartok a inspiré une création de la chorégraphe Pina Bausch en 1977. Inspiré, et comment ? Titre exact et complet, Barbe Bleue, en écoutant un enregistrement sur bande magnétique de l'opéra de Béla Bartok. Histoire, dans un immeuble désaffecté dont le sol est recouvert de feuilles mortes, des hommes et des femmes vont s'aimer, se rejeter, dominer leur partenaire ou s'y soumettre, au rythme de la partition du célèbre compositeur Bartok, rembobinée furieusement par Barbe Bleue, une pièce fondatrice de la danse contemporaine. Aussi excentrique, l'opéra bouffe de Jacques Offenbach en 3 actes et 4 tableaux créés en 1866. La turbulente paysanne Boulotte remporte un tirage au sort. Elle va devenir la prochaine épouse de Barbe Bleue qui vient d'enterrer sa 5e femme. Tout irait pour le mieux, mais Barbe Bleue, bientôt lassée de l'encombrante Boulotte, exprime le désir d'épouser la princesse Hermia. Il demande alors à son alchimiste particulier de lui concocter un breuvage anti-épouse. Hélas, ce n'est qu'un somnifère comme les autres fois. Et les 5 épouses défuntes, entre guillemets, cachées jusqu'alors dans un luxueux débarras, réapparaissent avec Boulotte à leur tête pour révéler les crimes de Barbe Bleue. Excentrique, quoi, cet opéra, entraînant en diable et mais. En réalité, une charge caricaturale dissimulée sous les airs faussement innocents d'Offenbach. Le public le sait, ce Barbe Bleue s'inspire sans ménagement de l'empereur Napoléon III. Rendez-vous. Ainsi se termine ce rendez-vous compte consacré à la lettre B. B comme Barbe Bleue. Alors, comme chaque semaine, devinette historique et culturelle pour les belles têtes. Quel personnage horrible et célèbre était surnommé la Barbe Bleue de Gambet et quel réalisateur français génial et avant-gardiste a réalisé en 1901 un film intitulé tout simplement Barbe Bleue ? Réponse par mail à rdbcidfm@gmail.com. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delatte sur IDFM 98. À la semaine prochaine, même heure sur IDFM pour la réponse à la devinette et de nouvelles découvertes, émotions et surprises dans l'ordre alphabétique.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.